Voilà. On laisse ouvert là ou bien on ferme?
On laisse ouvert qu'on puisse écrire.
Bien. Parfait. Bien. Alors, prêt. On aborde donc notre quatrième séance de cette série consacrée à la peinture en Europe au XVIIe siècle. Alors, vous rappelez quels ont été les actes des séances précédentes. Hein. On a évoqué Georges de la Tour. Rappelez-moi ce qu'étaient les deux autres séances. Les Caravages. Voilà donc les trois actes précédents. On aborde le quatrième avec une peinture que je vous révèle sans attendre. Enfin, en attendant un peu quand même. Et que voilà. Voilà la peinture qui nous permet aujourd'hui d'entrer dans cet acte nouveau. Alors, donc il s'agit d'une peinture et du XVIIe siècle. Vous voyez, je vous mâche le travail. Hein. Vous n'avez plus qu'à le prendre. Franchement, c'est pas très compliqué. Alors, on va peut-être commencer par le sujet, voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous voyez représenté sur cette œuvre?
Un repas de moine,
très bien. Pardon ?
Un repas frugal.
Comme tous les moines. Encore que.
Prédominance de blanc,
et pourquoi ?
Ce sont des chartreux.
Mais avec un laïc.
Avec un laïc, effectivement.
Et puis un autre personnage avec du gris.
Oui. Qui n'est pas un chartreux, manifestement. Donc, effectivement, les personnages attablés sont des moines chartreux, mais devant, il y a un laïc à gauche et un autre personnage, un prélat, dirons-nous, à droite. Bien.
Avec une canne.
Oui.
Et au-dessus, il y a un tableau.
Oui.
Représente quoi, d'ailleurs ?
La Vierge, Saint-Jean-Baptiste.
Oui. Ouais. La Vierge et l'enfant à gauche, Saint-Jean-Baptiste à droite.
Une ouverture à droite.
On devine.
Un clocher.
Bien. Que se passe-t-il?
Ils rompent le pain.
Ils ont tous un pain devant eux.
Oui.
Et puis monsieur, il monte quatre dans son assiette, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans l'assiette.
Celui de droite a l'air de s'adresser
aux jeunes.
Au laïc qui est devant,
là. Oui. Comme en tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre les deux au premier plan, oui.
Et
qui est
petit, on dirait, pas un enfant, mais un adolescent, il est pas du même âge.
Effectivement, c'est un jeune qui est à gauche, là.
Ça a l'air d'être un noble personnage, vu sa tenue.
Un noble personnage bien habillé, en tout cas.
Bien habillé, voilà. C'est pas un mendiant.
Pas un mendiant. C'est un personnage convenable, en fait, entre guillemets. OK. Et donc, vous avez dit que le personnage de droite faisait quoi?
Dialogue avec lui.
Il ne montre pas quelque chose dans l'assiette?
Il montre quelque chose dans l'assiette?
Je ne sais pas, son doigt est... C'est ambigu. On ne sait pas s'il montre l'assiette ou si c'est à côté.
Qu'est-ce qui peut se passer, à votre avis?
Il tient quelque chose aussi, le petit personnage. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que c'est qu'il tient dans la main? Un vêtement?
Ici, c'est sans doute un vêtement. Sans doute un couvre-chef. On voit pas très bien.
Mais est-ce qu'il est estropié? Non, parce qu'il a la
révérence. Il fait une révérence, non?
Non, il est... il se tient convenablement.
C'est un salut. Il est presque en train de saluer.
Si lui est un jeune personnage qui n'est pas un mendiant, le personnage qui est devant lui est un prélat, mais qui n'est peut-être pas non plus n'importe quel prélat.
Il fait la morale, non?
Lequel fait la morale auquel?
Le prêtre.
Ah, le prélat ferait la morale au jeune homme.
La lumière blanche et condensée sur deux chartreux.
Lesquels?
Troisième et deuxième à partir de la droite.
Ces deux-là.
Ceux qui n'ont pas mis leur
chartreux. Oui, il y en a un autre. Donc, visible, donc ces chartres-là seraient un peu privilégiés, si j'ose dire, enfin, mis en avant.
Celui du milieu, il semble prier.
Celui du milieu semble prier, celui-là.
Il a le regard dans le toit.
Il y a un regard.
Loin, éloigné.
Un peu éloigné.
Il serait même prieur.
Oui. Un peu extérieur, vous disiez.
Non, il serait même prieur.
Un prieur. Le patron, qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Alors, il y a ce que vous disiez, c'est l'éclairage qui le montre, lui, peut-être mieux que les autres, mais encore.
Les profils sont tournés vers lui.
Oui.
Sa place.
Autrement dit, lui est de face.
Oui.
Voilà, lui est de face, ça n'est pas le cas des autres. On a l'impression qu'il domine, si j'ose dire, qu'il préside la table. Hein.
Moi, je trouve que l'ombre du petit jeune, elle n'est pas normale. Il ne devrait pas être sous la table.
Il y a une drôle d'ombre du petit jeune.
Oui. Bah, si, parce que si la lumière est sur
ah, les peintres nous en font voir quelquefois de la réalité. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai.
Il va recevoir une bénédiction.
Il demande à rentrer
au. Ah, ce serait la bénédiction du petit jeune.
C'est un postulant.
Ah, c'est un postulant, quelqu'un qui doit rentrer dans le monastère. Un adoubement.
Religieux.
Ça semble solennel en tout cas.
Solennel.
Austère,
enfin,
il rigole pas. Quoi.
Ah, il rigole. Dans les monastères en général, c'est vrai qu'on ne rigole pas pour ça. Oui, les chartreux sont en général, effectivement. C'est important ce que vous dites, il y a une dimension de relative austérité, si j'ose dire. C'est vrai.
La disposition des personnages me fait penser un peu
à la
scène. Oui, il y a un peu une sorte d'allusion à ça.
Ils sont tous face à nous, comme ça.
Oui, mais ils sont penchés.
Avec oui, tous dans le milieu qui nous regardent bien. Oui.
Ok.
Ça peut aussi être le traiteur qui a livré le repas.
Bien entendu. C'est même ça.
Attention, le côté en fond n'est pas
frais. Oui, c'est ça.
Il n'est pas cuit.
C'est sûrement ça. Ouais. Donc, on a une scène de repas dans un monastère de Chartreux, on est au réfectoire. Hein. Les chartreux sont alignés derrière la table dans une disposition qui, quelque part, évoque la Sainte Cène.
Mais c'est un dimanche.
Pardon?
C'est un dimanche.
Et pourquoi?
Parce qu'ils ne déjeunent jamais ensemble, sauf le dimanche.
Bravo. Effectivement. Ah. Bravo. Et alors, ils sont présentés dans le réfectoire sous un tableau édifiant. Hein, le tableau est là, dans le réfectoire. Dans le réfectoire, on ne parle pas trop, comme vous l'imaginez. Hein. Et donc, le tableau est là pour soutenir la méditation, pardon. La nappe est importante, blanche, bien repassée, n'est-ce pas, avec les plis bien marqués.
C'est peut-être parce que le prélat est un invité. Un invité d'honneur, peut-être, et tout ce décorum pour cet homme-là.
Oui, il y a un décorum particulier.
La nappe.
Peut-être que c'est l'enfant. Ils n'ont pas l'habitude de manger sur des nappes. Hein.
C'est un pèlerin, non?
Ah, un pèlerin?
Non. Non, il n'y a pas d'habitude de pèlerin.
Vous avez dit qu'il pourrait s'agir, vous avez évoqué plusieurs choses. Hein. Ça pourrait être, est-ce que c'est ces deux personnages sur le devant qui vous interrogent hein. Soit il s'agit d'un personnage âgé dont vous avez bien dit qu'il n'était pas un chartreux, qui reçoit un jeune homme bien mis, dirons-nous, peut-être pour lui le réprimander, vous avez dit, ou pour lui faire la morale. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe entre les deux.
Est-ce qu'il tient quelque chose?
Qui ça?
L'enfant, enfin le jeune.
Il tient quelque chose dont on a dit que c'était un peu difficile à voir, mais que c'était sans doute des éléments de son vêtement, sans doute un couvre-chef.
Mais dans la main.
Ah là.
Non.
Non.
C'est l'assiette qui tremble.
Oui, c'est l'assiette qui est derrière.
De l'autre côté. Ah bon.
Il fait ça.
Ah bon.
Pourquoi d'ailleurs?
C'est pas moi.
Ah oui, c'est pas moi, c'est lui. Vous disiez, pardon.
Il fait une révérence.
Une révérence.
Ben oui, il a les pieds en avant. C'est
oui, ça peut être le cas, mais ça peut-être être autre chose.
Oui, avant. Oui, je m'incline, vous avez raison. On ne sait pas lequel des deux parle, en fait. Est-ce que c'est le prélat ou est-ce que c'est...
On ne sait même pas si quelqu'un parle.
Oui, le prélat, il a la bouche ouverte.
Encore une fois, chez les chartreux, on ne parle pas trop.
Le prélat,
enfin, on parle à soi-même, oui, on parle à Dieu. Mais sans parole, pas utile.
Le prélat, il est en gris, c'est un peu bizarre.
Oui.
Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la même congrégation.
Ah, ce n'est pas un chartreux, manifestement.
C'est pas un chartreux, c'est ça.
Ah, oui. Et puis le jeune, il est bien petit, je trouve.
Oui.
Par rapport...
Ah, ben bah, c'est un petit jeune. Mais effectivement, c'est un jeune garçon, quoi, un jeune homme. Pardon ?
Non, je disais une bêtise. C'est très espagnol.
C'est pardon espagnol, oui.
Ah, vous trouvez que ça sent l'Espagne ?
Ça sent l'Espagne.
Sans l'Espagne. Allons-y pour l'Espagne.
Les mariages avec les...
Ah, alors ça, c'est autre chose, mais effectivement, vous pensez à ces fameux concessions de pénitents. Hein.
Ouais.
Les pénitents ont des sortes de cagoules pointues. Ouais. En tout cas, tout ça nous.
Et pourquoi il y en a qui sont coiffés et les autres?
Ah, ben, vous savez, un petit courant d'air, il faut se mettre à la coiffure. Donc c'est quelque chose. Hein. Bien, donc, ce que vous pensez, donc, encore une fois, on est dans le réfectoire des chartreux, pendant le repas, ils sont alignés dans une position qui évoque l'idée de la Sainte Cène, d'une certaine manière. On voit qu'un des chartreux semble être plus ou moins le chef chartreux, n'est-ce pas, qui a présenté au centre, de face, avec autour de lui les personnages qui sont comme tournés vers lui. Donc, on sent qu'il préside, en quelque sorte, ce repas. Vous disiez que tout ça était un peu austère, hein, on n'est pas en train de discuter entre soi. De la même manière, il y a au premier plan ces deux personnages, un gris, un personnage âgé en gris, qui est un prélat, mais qui n'est pas un chartreux, qui discute avec un jeune homme bien mis, qui semble faire ce que vous interprétez comme étant une sorte de révérence, ok. Et vous aviez l'air de dire que la scène était une sorte de réprimande du vieux prélat au jeune homme qui, lui, n'est pas un prélat, mais est un laïc. Est-ce que je résume bien ?
Oui. Hein ? Réprimande ?
Réprimande ? Non.
C'est peut-être un accueil ou...
Un accueil ?
Oui,
mais pourquoi cet homme accueille dans le monastère d'un chartreux, lui-même n'est pas chartreux ?
Oui. Oh, ben, je vais vous présenter.
Donc, un non-chartreux présente des chartreux à quelqu'un qui n'est pas ni chartreux ni prélat.
Ben, c'est un prêtre qui préside au cérémonie.
En fait, la question est de savoir pourquoi ce jeune homme est là. Quoi.
Oui, et puis à vrai dire, même pourquoi l'homme a le prélat anglais à droite.
Oui, il lui dit si tu veux devenir chartreux, c'est ce que tu mangeras.
Oui, alors vous me disiez évidemment, c'était peut-être une scène d'introduction d'un jeune homme chez les chartreux. Tout ça en réfectoire. Pardon, et un dimanche.
Un dimanche.
Comme on dit, c'est le dimanche au réfectoire qu'on accueille les prétendants à être chartreux.
Non.
Pareil, pas idéal.
Ce personnage a une jupette un peu...
Olé,
olé. Mais
non,
c'est un
surplis. Quel personnage ?
À droite.
À droite. Oh, c'est un surplis.
Oui, oui.
Avec des petites dentelles.
Oui, c'est
sympathique. Non,
c'est
vous qui fun. Vous ne pensez pas à une autre scène possible ?
Ce ne serait pas une allégorie.
Pardon ?
Ce serait une allégorie.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà.
Parce qu'ici, c'est moi qui pose des questions.
Je
tente. Oui, oui, bien sûr. Ah, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire.
Ou il apporte des informations. Il apporte des informations dont on a besoin.
Quel genre d'informations?
Sur l'extérieur, de toute façon. Ça ne doit pas intéresser les gens.
Un messager.
Un messager.
Oui, messager.
Le jeune, le vieux ?
Le jeune.
Le jeune. Le jeune serait un messager. Ok.
Ça peut être un donateur.
Un donateur.
Qui remercie.
Ok. C'est vrai que ça peut faire penser à ça.
l'histoire du messager, c'est pas...
Il y a peut-être encore une autre chose, parce que le fait qu'on soit dans un monastère de Chartreux, les Chartreux, vous avez dit, notamment les Chartreux principal, on est à la fois un peu austère et un peu absent.
Oui, détaché.
Un peu détaché. Hein? Vous disiez également que le personnage à droite avait l'air de montrer quelque chose.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas vous.
Est-ce qu'il est vraiment réel, ce personnage laïque? Est-ce que tout le monde le voit ou...
Tout le monde le voit. Enfin...
Est-ce que c'est les autres qui ne sont pas...
qui ne sont pas...
À leur place. Ben, réel.
Si, tout le monde est là. Mais...
Mais... Ce sera un ange...
Non.
Seul, c'est pas un ange.
Non plus. Enfin...
Il a une cape de cardinal, mais il n'est pas rouge, quoi.
Oui,
voilà.
Bon, il n'est pas rouge. Parce qu'il y a une autre solution. Pour... Enfin, on est dans une scène religieuse, justement. Vous avez parlé de saint. Alors cette scène peut évoquer quoi? Peut montrer quoi?
Est-ce que celui de droite représente le fondateur de l'ordre?
Celui de droite? Non. C'est qui le fondateur des Chartreux?
Saint Bruno.
Saint Bruno.
Alors, ce serait lui, non?
Ah, c'est peut-être lui. Il serait où alors?
Le jeune homme, là.
Ah, celui qui fonderait Jean-Bruno.
Celui qui préside.
Si Saint Bruno il y a.
C'est
celui-là. Hein, le président de séance.
Oui. Mais c'est décalé dans le temps, parce que Saint Bruno, c'est.
Oh, vous savez, les peintres ne sont pas là pour représenter la réalité historique des choses. Hein. On est dans une peinture du 17e, mais l'idée n'est pas forcément de représenter. Les peintres du 17e s'autorisent. Vous rappelez Job de Georges Latour? Voilà un artiste du 17e qui a présenté une scène de l'Ancien Testament. Hein. Donc, voilà. Là, effectivement, on est peut-être chez un artiste du 17e siècle, même sûrement, qui représente une scène du Moyen-Âge, s'il s'agit de Saint Bruno. Hein. Mais ça, Moyen-Âge, c'est bien plus récent que la Bible, après tout. Donc c'est normal. Hein. Les peintres sont toujours autorisés à présenter des scènes qui n'étaient pas uniquement contemporaines.
Si c'est Saint Bruno, c'est l'évêque de Grenoble qui l'a nommé.
Oui.
Ah, c'est peut-être un épisode de la vie de Saint Bruno.
Ah.
On y arrive.
Et pourquoi? Alors, on commence petit à petit, évidemment, voir ça, mais alors, si c'est un épisode de la vie de Saint Bruno...
C'est quand il est rentré au monastère.
Alors, visiblement, il y est déjà depuis quelque temps. Hein.
Non, mais le jeune, non.
Alors,
ça serait lui, jeune.
Alors, finalement, attendez, Saint Bruno, vous le mettez où, là?
Deux fois.
C'est-à-dire que Saint Bruno est là, il est de nouveau là.
Oui,
avant. Saint Bruno est déjà... Celui qui préside au repas dans l'effectoire, il est déjà l'abbé du monastère.
C'est une évocation.
Et en même temps, c'est une évocation de son entrée. Oui, vous allez encore plus loin, j'imaginais. Hein. On peut prendre de l'imagination, mais dans ce que je il n'y a pas de déficit. Pardon. Il revoit en quelque sorte. Ah, ouais, c'est malin. Bravo, dites-donc. Je crois que vous devriez être des. Comment dire?
Scénariste.
Oui, ça, enfin faire les gens, vous savez, qui font le cinéma, font des sons de scénario, scénaristes.
Oui, on a mal à la tête
aussi. Oui, j'imagine. Hein. Donc vous y voyez Saint Bruno qui revit en quelque sorte son entrée au monastère. Pourquoi pas? Donc une sorte de vision.
En quelque sorte.
En quelque sorte. Alors ça, c'est une possibilité, mais il y a encore une autre possibilité quand on parle. Mais oui, et pourtant évidente, hein. Quand on parle de saint, ça, pourquoi un saint est un saint?
Parce qu'il a fait des
miracles. Ah, des miracles, enfin. Le mot est lâché. Des
c'est
miracles.
Miracle. C'est un miracle?
Quel miracle? Pourquoi pas?
On ne voit pas vraiment.
Il y a quand même quelqu'un qui est en train de le désigner, le miracle. C'est même vous qui l'avez dit.
Et ben dans les assiettes.
Ah, ben dans les assiettes.
Il
y a un miracle dans les assiettes.
Il a changé.
D'ailleurs, regardez, c'est vous qui l'avez dit, il a le doigt qui est pointé vers l'assiette.
Oui,
Donc manifestement, il se passe quelque chose dans l'assiette. Vous avez dit, on se montre bien ça. Mais si, c'est dans l'assiette.
On n'est pas sûr.
Ah, ben c'est un peu ambigu.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'assiette ?
Alors, c'est un miracle qui évoque la vie de Saint-Bonnard. Ce miracle, je vais être obligé de vous raconter parce qu'il est, il est assez tordu d'abord. Il est assez particulier. Saint-Bruno a donc fondé la Chartreuse. Donc Saint-Bruno, il est là au milieu de la table, c'est normal, il préside au repas dans le réfectoire. Et l'histoire de Saint-Bruno nous raconte qu'un jour, un dimanche, effectivement, les Chartreux se sont fait livrer, en plus du repas frugal qui est le leur, de la viande. De la viande. Ce qui, chez les Chartreux, n'est pas trop ni habituel, ni normal. Les Chartreux sont des gens qui ne font pas bonbons, si j'ose dire. À tel point d'ailleurs que, voyant la viande arriver dans leurs assiettes, ils se mettent à évoquer cette question, à parler entre eux de cela. À tel point que cette discussion autour du contenu même de leur repas va faire que les Chartreux vont entrer une sorte de léthargie miraculeuse qui fait que pendant 45 jours, ils vont s'endormir et rester là, assis à leur place, dans le réfectoire du monastère. Évidemment, cet événement ne va pas laisser indifférents les gens qui travaillent dans le monastère, dont un petit page qui, voyant ça, va voir l'évêque de Grenoble, qui en son temps avait joué un rôle important de l'illumination de Saint-Bruno, et l'évêque de Grenoble, qui n'est autre que Saint-Hugues, va venir à la Chartreuse, avec le jeune page qui a découvert ce prodige. Et quand Saint-Hugues va arriver dans le réfectoire où sont toujours les moines depuis 45 jours, assis, j'allais dire pétrifiés, avec le repas devant eux, et bien à ce moment-là, au moment où Saint-Hugues arrive, ils vont en quelque sorte se réveiller. Vous avez noté d'ailleurs ce côté un peu, pas tout à fait là des moines, évidemment, c'est 45 jours qu'ils dorment, assis devant leur assiette, ils n'ont pas touché. Et donc, ils se réveillent, et au moment où ils se réveillent, la viande qui était encore dans leur assiette va se transformer en cendre. Parce qu'encore une fois, les Chartreux ne souhaitaient pas manger de viande, et donc il y a une sorte de miracle. Vous voyez. La viande se transforme en cendre. Et voilà, c'est la scène qui est ici montrée. Donc vous voyez, c'est un miracle un peu complexe, qui est donc le miracle de Saint-Hugues chez les Chartreux. Et c'est pourquoi vous voyez à la fois Saint-Hugues qui désigne l'assiette, parce que la viande est en train de se cendrifier, si j'ose dire. Le jeune homme est un peu surpris, parce qu'évidemment, on ne voit pas tous les jours la viande qui se transforme en cendre. Et les Chartreux sont un peu comme ça, en lévitation, parce qu'ils sont en train de dormir et de se réveiller. C'est donc un miracle de la vie de Saint-Bruno.
C'est pas
un miracle, ça. Dormir pendant 45 jours, la viande qui ne se corrompt pas et qui devient de la cendre, c'est quand même un peu spécial.
De la vie au miracle.
Ben, c'est déjà pas mal. Ben, vous m'en ferez un miracle comme ça.
Mais moi, je ferais plutôt l'inverse. Mais
la oui, cendre... la cendre en bidoche, moi, j'aime
bien. Ah, ouais. Ah, chacun ses valeurs. Hein.
La cendre, c'est symbolique ou pas, alors ? Parce que la viande aurait pu être faisandée.
Ou... Oui, ah non, ben non, justement, elle ne s'est, pendant 15 jours, elle ne s'est pas corrompue.
Oui,
tout est resté. Les chartreux sont restés assis, dormants, la viande est restée telle qu'elle, jusqu'à la vie de Saint-Hugues.
Oui, mais alors du coup, ce n'est pas le miracle de Saint-Bruno, c'est le miracle de Saint-Hugues.
Disons que c'est un miracle pour tout le monde, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un miracle qui, comment vous dire, qui met en scène aussi bien l'un et l'autre. C'est pas Saint-Hugues qui transforme en cendre. Hein. C'est au moment où il arrive, la viande qui devient cendre. Donc c'est un miracle qui vient de je ne sais où. C'est un phénomène surnaturel.
Rester 45 jours assis à la table.
Oui. Je n'ai pas vu ça souvent. On m'a pas. Enfin, si vous le faites, dites-le moi. Ça m'intéresse. Pardon. Vous disiez
d'envisager la suite, le réveil.
Ah oui. Peut-être un peu compliqué. D'ailleurs, encore une fois, ils ont l'air un peu. Vous avez dit, ils ont l'air un peu absents. Cette œuvre, vous avez dit, vous avez parlé d'Espagne, très bien. Qu'est-ce que vous diriez pour la caractériser, cette œuvre?
C'est très sobre.
Très sobre. Vous n'avez pas parlé d'austérité.
Tout est bien classé.
Pardon?
Tout est bien classé.
Oui, très structuré.
Très structuré,
oui. Jusqu'à la nappe dont vous avez parlé.
Oui, le symphonie de blanc.
Oui, une œuvre très presque monochrome. Hein. Il y a, c'est blanc-gris, quoi.
Il n'y a que le tableau.
Oui, il n'y a que le tableau qui offre quelques couleurs, effectivement. C'est le seul élément. Ouais.
Les visages sont assez réalistes.
Oui, quelque chose d'assez réaliste, effectivement. Hein. Il n'y a pas une sorte d'idéalisation. Hein. On est dans une scène qui montre la réalité. Et puisque c'est un miracle, c'est d'autant plus prégnant, si vous voulez. Parce qu'une scène idéalisée avec un miracle, pourquoi pas, hein. Une scène réaliste où il se passe quelque chose de spécial, là c'est plus curieux. Oui. Donc effectivement, sobriété, réalisme, construction, hein, structuration, ok.
C'est même sec.
Oui.
C'est aride.
Oui, aride. Aride, oui. Il y a même un côté un peu, comment dire, presque archaïque, si vous voulez. Hein. Vous avez d'ailleurs parlé de scène. Ça, on a l'impression, alors qu'on est au XVIIe siècle, de ces représentations des scènes médiévales. Hein, il y a un côté hiératique, si vous voulez. Est-ce que vous avez une idée d'un peintre?
Zurbaran.
C'est lui. C'est Zurbaran. Vous avez là, effectivement, une peinture de Francesco de Zurbaran, qui représente donc Saint-Cutugue au réfectoire des Chartreux. C'est un tableau qui date du milieu du siècle, qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Séville, et qui provient de la chambre de Santa Maria de las Cuevas, à Séville. Alors, je vous donne peut-être quelques... Je vous dis deux, trois petits mots sur ce lieu. Voilà le monastère Santa Maria de las Cuevas. Très beau lieu. Hein. C'est un monastère qui est une sorte de petite île dans les faubourgs de Séville. Très beau lieu, au bord de l'eau. On voit là, d'ailleurs, une autre vue. Hein. Voilà, très, très beau lieu, j'ai envie d'y aller. Santa Maria de las Cuevas. Las Cuevas. Qu'est-ce que ça veut dire, cueva, en espagnol?
Le lien est un peu loin.
La cueva, c'est la grotte. Donc, Sainte-Marie de la grotte. Ce monastère s'appelle Santa Maria de la Virgen, précisément de las Cuevas, parce qu'on dit qu'au Moyen-Âge, sur cette île, étaient établis d'assez nombreux potiers. Parce qu'il y a de l'eau, il y a de l'argile, voilà. Et Séville a toujours été une ville assez potière. Et on dit qu'un jour, dans un four de potiers, vous savez, les fours de potiers sont généralement dans le sol, hein, et sont faits d'une sorte de voûte, hein, comme une grotte, entre guillemets, hein, est apparue une vierge miraculeuse. Hein. D'où le nom de la Virgen, la Vierge, de las Cuevas, des grottes. Parce que c'est dans une grotte, qui est en fait un four de potier, qu'on a vu cette apparition de la Vierge miraculeuse, d'où le nom de Santa Maria de las Cuevas. Et donc, c'est de ce monastère, qui était un monastère de Chartreux, une chartreuse, que provient cette œuvre. À vrai dire, cette œuvre ornait la sacristie, où il y avait deux autres peintures de Zurbaran, que je vous montre maintenant. Celle-là, d'abord, qui représente quoi ? Et dont on peut dire quoi sur le plan de la façon dont elle est peinte, réalisée? Pardon? Quelque chose de très médiéval encore. Hein, c'est qu'on retrouve là le côté très hiératique, un peu archaïsant, hein, qu'on a vu dans la scène, dans le repas des Chartreux il y a un instant. Hein. Absolument. Quoi d'autre?
C'est symétrique.
Très symétrique. Il y a cette espèce d'ordonnance qu'on a vue dans le tableau précédent. Les deux tableaux vont bien ensemble. Hein.
À droite des donateurs. C'est une question. Hein.
Oui. Mais la réponse, c'est quoi?
Je l'affirme. Oui.
Mais la réponse est plutôt oui ou plutôt non. On ne sait pas. Ou peut-être des donateurs. Ok.
C'est un saint.
Un saint encore.
Il y a une
auréole. Oui, une auréole autour de sa tête. Hein. Okay. Donc un saint, manifestement. Pardon.
Saint-Ignace.
Saint-Dominique.
Si chez les Chartreux, c'est encore
Chartreux.
Ben voilà. On est chez les Chartreux. Il y a de grandes raisons que ce soit encore un Chartreux. Hein. On est dans la sacristie de la Chartreuse. Ben oui, le Chartreux, il parle de Chartreux. Donc c'est sans doute un Chartreux. Ça peut être quel Chartreux d'ailleurs ?
Bruno.
Et ben pourquoi pas Bruno ? On l'a vu tout à l'heure dans le repas en réfectoire. C'était un autre épisode de la vie de Saint Bruno. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait Saint Bruno ? Parce que c'est bien lui.
Il est
devant
un évêque aussi, là, encore à gauche.
Enfin. Ouais, c'est même un peu plus qu'un évêque. C'est un pape. C'est un pape. Donc c'est Saint Bruno devant le pape. Saint Bruno qui est reçu par le pape. Très bien. Donc, vous avez vu quelle était la scène, effectivement. Et vous avez bien dit qu'il s'agissait de quelque chose, là aussi, de très organisé, de très symétrique, d'un peu archaïsant. Qu'est-ce que vous pourriez dire encore, là, pour qualifier le style, entre guillemets, de cette œuvre ?
C'est théâtral, avec les rideaux.
Assez théâtral, les rideaux, OK.
Au-dessus et sur le côté.
Ouais.
L'auréole, c'est vraiment génial.
L'auréole ?
Oui, ça fait médiéval, je
trouve. Oui, c'est vrai. Quoi d'autre encore ?
Mais on s'arrange pour qu'il y ait une sorte d'égalité entre les deux personnages.
Parce
que le pape a aussi peu de couleurs quasiment.
Oui, oui, oui. Oui, un petit déséquilibre.
Oui, mais il y a un dé au-dessus de lui.
Ah, il y a un dé au-dessus du pape. Il y a un dé au-dessus du pape. Il y a un dé au-dessus du pape. C'est quand même le pape. Hein. Mais il y a un rideau de l'autre côté.
Mais on a atténué toutes ces.
Mais c'est vrai que si on coupe la toile en deux. Pas, hein. Il y a comme ça une sorte de symétrie effectivement entre les deux et d'égalité entre les deux personnages. Oui, la colonne centrale hein, qui est là comme un axe de symétrie. Hein. Tout ça est évidemment très bien construit. Qu'est-ce qui vous frappe encore ?
Les deux personnages de droite, qu'est-ce qu'ils font là ?
Ah oui, ces fameux donateurs sont, point d'interrogation.
Ils sont figés.
Oui.
Ils ont l'air de s'ennuyer, presque. C'est ça.
Oh, s'ennuie-t-on en présence du pape ?
C'est des serviteurs.
Oui, ce sont, voilà, des desservants quoi, qui sont là. C'est des membres de l'entourage du pape, certainement. Hein. Et puis quoi d'autre encore ? Une chose que vous aviez remarqué dans le tableau précédent, d'ailleurs, et même deux choses que vous aviez remarquées, une chose sur laquelle on n'a pas réinsisté, et qui est pourtant très importante dans le tableau précédent, et que l'on retrouve ici. Et puis une chose sur laquelle vous avez insisté et qui me paraît évidente ici aussi.
Le réalisme.
Alors le réalisme, c'est vrai.
Il y a le jeu sur le blanc aussi.
Oui, alors toujours ce côté assez monochrome. Ce n'est pas des toiles super, super brillantes. Hein. Hein, toujours assez monochrome. Hein, oui. Gris, blanc.
Il y a un blanc intense.
Intense.
C'est des grands tableaux.
Pardon ?
Ce sont des grands tableaux.
Grands tableaux. C'est des tableaux qui font à peu près 3 mètres de long. Hein. Donc c'est grand. Ouais. Oui, la sacristie est importante. Hein. Au XVIIe siècle, en Espagne, les sacristies prennent de plus en plus d'importance. Ça devient une pièce. Je dis, c'est pas un chapelet, il y a un placard pour mettre. La sacristie devient une salle importante, très décorée, donc il faut des décors. Ça fait
les objets sur la table centrale.
Oui.
Ça, c'est important. D'ailleurs, vous l'aviez remarqué précédemment. Alors, vous l'avez remarqué, je ne vous ai pas fait réinsister dessus, mais rappelez-vous précédemment, hein, on avait tous ces objets sur la table, hein, dont vous aviez dit que j'étais très bien placé, très bien organisé. Chacun avait son pain, son assiette, son vase. Hein. Là, c'est pareil, vous avez une nature morte au centre, très bien organisée, hein, placée bien au centre. Hein. Effectivement, cette nature morte, elle est importante. Bien. Donc, pardon.
Si elle est importante, c'est ce qu'il y a dessus. Donc, elle est importante, vous voulez dire, dans le décor ou uniquement, mais pour interpréter le tableau ?
Peut-être les deux. Je pense qu'elle est importante d'abord là, dans ce que le tableau a nous montré. Hein. Après tout, vous avez des livres. C'est quoi ces livres ?
La Bible,
hein. Donc tout de suite, ça monte la Bible au centre, tout simplement. Hein. Il y a à côté un encrier. Hein. Donc on voit bien que la dimension d'écriture, etc.
Un
sceau. Donc on voit bien que voilà, il y a une dimension de lecture, d'écriture, qui soudain montre la dimension, on va dire, intellectuelle qui est présentée ici.
Bruno, il a le regard dans le vague. Comme
précédemment. Comme précédemment. Il est là et pas là à la fois. Ouais. D'ailleurs, le pape.
Il nous regarde.
Oui, il nous regarde.
Il a un regard plus vivant.
Ouais.
Et
pourquoi il a une petite pastille sur le crâne,
là,
Bruno ?
C'est quoi ?
C'est sa marque de femme. Eh bien, je ne sais pas. Je crois que c'est le devant de sa calvitie précoce, si j'ose dire.
Oh, c'est blanche comme ça.
Ben, j'ai l'impression, quand on vient près, c'est un peu comme si ça. Il a la même chose là, sur le dessus de la tempe.
Ah oui, c'est le... Ah, la lumière qui se reflète.
Oui, je crois que c'est la lumière. Alors, dans la sacristie de cette église de la Chartreuse, de la Virgen de las Cuevas, il y a également un troisième tableau que je vous montre.
Une Vierge de Miséricorde.
Une Vierge de Miséricorde.
Mais il
n'y
a que des hommes.
Oui.
Que des
Chartreux. Bah oui, que des Chartreux. C'est une Vierge de Miséricorde qui accorde une miséricorde aux Chartreux, parce qu'on est chez les Chartreux.
Et puis un semis de fleurs.
Eh oui. Ouais.
Il y a rose et peut-être jasmin.
Oui. Hein? Essentiellement rose et un peu de jasmin. Ouais, c'est pourquoi des roses?
Marie.
Et pourquoi la rose et Marie? Pourquoi la rose est liée à Marie?
La rose, elle a des épines, et les épines préfigurent le Christ et la couronne d'épines du Christ.
Oui.
Elle a une couronne,
elle
n'a pas toujours de couronne, Marie.
Non, mais là, elle en est. Ah voilà, la rose est la plus belle des fleurs et Marie est évidemment la plus belle des femmes. Je suis désolé de vous la dire.
Il y a le Saint-Esprit aussi là-haut.
Et il y a le Saint-Esprit. Oui, absolument. La Vierge Miséricorde, c'est quoi?
Elle enveloppe sur son manteau et protège tout le monde.
Voilà, elle protège tout le monde. Hein. Et ça aussi, c'est une iconographie qui vient de quoi? Qui vient d'où? Du Moyen-Âge. C'est vraiment une iconographie médiévale. Hein. On est au XVIIe siècle, je vous rappelle. Hein. Et là, vous aviez une iconographie dont les premiers exemples remontent au moins au XVe siècle. Donc on est là aussi, comme dans les tableaux précédents, dans, et encore plus peut-être, hein, dans vraiment une forme très médiévale, reprise au XVIIe siècle. Hein. Ok, qu'est-ce qui vous frappe encore dans ce tableau?
Le personnage sur sa main gauche, c'est Saint Bruno, non, on dirait le même personnage que le
premier tableau.
Lequel?
Celui sous sa main gauche.
Sous sa main droite gauche. Là?
Oui.
Oui, vous trouvez que lui ressemble? C'est possible.
C'est possible. Donc il est très assez.
Oui, c'est possible. Il me semble un peu moins chaud.
Est-ce qu'il y aurait deux
ces choses qui évoluent.
Est-ce qu'il y a deux personnages principaux? Oui. Elle est à la main sur deux.
Oui.
Mais peut-être alors qui est l'autre?
Mais peut-être qu'elle va partir avec les autres.
Il n'y a peut-être pas d'importance. Tout ça a une importance. Bon, là aussi, c'est symétrique.
Là aussi, c'est très symétrique. Hein, comme dans les tableaux précédents, tout est très construit.
Les anges. Ouais. Les angelots.
Pardon?
Il y a des angelots.
Oui, des angelots qui lèvent le manteau. Puis moi, il y a une chose qui me frappe aussi.
Tout de même, ça doit être des portraits, parce qu'ils sont assez différenciés les uns des autres.
Oui, alors cela dit, vous savez, le côté réaliste, on l'avait marqué dans les tableaux précédents.
Oui.
Par exemple, dans le tableau de la... C'est toujours de la scène, du réfectoire. Les personnages étaient... Les sœurs étaient tous très différents.
Très différents.
Portraits, je ne sais pas. En tout cas, une différenciation très réaliste, comme il avait été dit, sûrement, effectivement. Ouais.
Là, il y a plus de couleurs.
Ah ouais, là, il y a beaucoup plus de couleurs. Alors là, on n'est pas dans le côté grisouille des tableaux précédents. Hein. Là, ça pète de couleurs. Hein. Vous avez du rouge, du bleu, du jaune doré. D'ailleurs, ce jaune doré, il fait penser à quoi? Exactement, à la peinture médiévale. Hein. Rappelez-vous, la peinture médiévale, jusqu'à très tard, notamment en Espagne, c'est des fonds d'or. Hein. Et là, vous avez un peu la même chose, toujours une espèce de reprise, un côté vintage, si vous voulez. Au XVIIe siècle, Zurbaran, là, volontairement, il peint avec une sorte de référence au Moyen-Âge, peut-être parce que, vous le disiez tout à l'heure, hein, tout ça évoque un ordre qui a été fondé au Moyen-Âge. Hein. Saint-Bruno, c'est quoi, 12e, hein? Voilà. Ok. Ce tableau, il représente donc la Vierge de Miséricorde avec des chartreux. Le tableau précédent représentait une entrevue d'un pape avec sans doute Saint-Bruno. Et le tableau tout à fait avant représentait un miracle de la vie de Saint-Bruno avec Saint-Hugues. À votre avis, qu'est-ce que ces trois tableaux associés ensemble dans sa gestie pouvaient évoquer, qui pouvaient, pour les chartreux, être édifiants? Qu'est-ce qu'ils disent, ces trois tableaux, ensemble?
Un miracle, comment dirais-je, récupéré par le pape, et puis l'apothéose.
Et puis la protection,
la légitimité
jouisse de l'ordre. La protection.
Voilà.
Surtout la sainteté de Saint-Bruno.
Oui. Ce tableau-là, il montre la sainteté de saint Bruno.
Pour être saint, il faut un miracle, il faut ci, il faut là.
Oui, une sorte de cursus du saint parfait. Mais ce tableau-là, alors peut-être qu'il y a saint Bruno, peut-être pas, c'est pas évident en tout cas. Qu'est-ce qu'il montre avant tout, ce tableau-là?
Que les chartreux sont...
Ok. Alors, que la Vierge les protège, d'accord.
Mais ils ont une dévotion particulière
voilà. à Marie. Ça veut dire qu'ils ont une dévotion particulière à la Vierge. C'est aussi ça. Hein. Certes, la Vierge leur accorde sa protection, mais enfin, c'est donnant-donnant, si j'ose dire.
On est dans un monastère dédié à la Vierge.
Voilà, et en plus, un monastère dédié à la Vierge. Donc, les Chartreux, dans le monastère de la Virgen de las Cuevas, est un monastère de Chartreux placé sous le vocable de la Vierge. Donc, il y a une dévotion particulière à la Vierge. Ça, c'est le premier élément.
Sachant qu'on est déjà au XVIIe siècle, donc le protestantisme est sorti. Est-ce qu'il n'y a pas une résonance pour montrer que la Vierge, c'est important chez les cathos, alors que chez les protestants
ne croit pas.
Et on appelle ça comment?
La contre-réforme.
La contre-réforme. Ah, parce que vous avez raison, hein, la réforme, en gros, l'avènement du protestantisme, pour faire très vite, hein, c'est le XVIe siècle. Au XVIIe siècle, il va y avoir la volonté des catholiques de lutter contre ça, ce qu'on appelle la contre-réforme. Et effectivement, là, contre les réformes, les catholiques, notamment en Espagne, hein, mettent en avant notamment la figure de la Vierge. Et c'est exactement ce que vous avez là. Donc c'est un tableau très typique de la contre-réforme en Espagne, effectivement. Les deux autres tableaux, celui du miracle et celui de l'entrevue, peuvent évoquer quoi, à votre avis, à travers un miracle et un autre épisode de la vie de saint Bruno?
La protection de l'Église.
Oui.
L'autorité du pape.
Oui, l'autorité du pape, oui. À vrai dire, il montre tout ça. Mais il montre un peu autre chose aussi. Parce que, et je vous montre là avec la petite légende, hein, le premier tableau que nous venons de voir, hein, saint Bruno devant Urbain II. Hein, c'est le pape Urbain II qui, d'ailleurs, avait été jadis... sous la houlette, si j'ose dire, de saint Bruno.
Mais c'est un plénicien ?
Absolument, tout à fait. Donc, le...
Saint-Urbain, c'est un champenois.
Oui, mais qui a fait ses classes, si j'ose dire.
À l'abbaye de Cluny.
Oui. Et si vous voulez, Urbain est en fait l'élève, si j'ose dire, de Bruno. Et vous avez bien remarqué que dans cette scène-là, qui est une scène qui semble assez silencieuse. Vous savez, à vrai dire, les tableaux ne parlent pas beaucoup, on est d'accord. Et après, il y en a qui jacassent, si j'ose dire. Là, vous avez dit vous-même, hein, saint Bruno, on a l'impression qu'il est un peu ailleurs. Il a le regard un peu comme ça dans le vide. Quand au pape, il nous regarde, on n'a pas l'impression qu'il se dise grand-chose. Et de fait, cette entrevue qui est devenue légendaire entre saint Bruno et Urbain II est une entrevue dans laquelle, en gros, les deux hommes ne se sont rien dit. Ça, c'est un des modèles de la vie des Chartreux, le fait de ne pas parler. On a là, si j'ose dire, à travers ce tableau, quelque chose qui montre une des règles, pour dire cartusienne, une des règles des Chartreux. Tout comme le miracle tout à l'heure montrait une autre règle, qui est le jeûne. Si vous aviez dans la sacristie de l'église de la Virgen de las Cuevas, une sorte de triptyque, encore assez médiéval, avec ces grandes énormes toiles, hein, qui ne passaient pas inaperçues. Qui montre, un, que les Chartreux, notamment dans ce monastère, ont une dévotion privilégiée à la Vierge, que deux, ils vivent dans le silence, à l'image du fondateur de leur ordre, que trois, ils vivent dans le jeûne, à l'image du miracle du réfectoire de Saint-Hugues que nous avons vu tout à l'heure. Vous aviez là, finalement, trois tableaux qui balisaient la règle des Chartreux. Alors, cette petite... Alors, je vous montre avec la légende le tableau en question. Alors, je vous montre aussi une vue d'une autre chapelle qui se trouve dans le monastère en question. C'est la chapelle La Capilla de Afuera. Afuera, c'est pas besoin de dire de dehors, de l'extérieur. Hein, mais c'est, ça se trouve juste à côté, si vous voulez. Et dans La Capilla de Afuera, vous avez un grand retable baroque... en bois doré, etc. Et qu'est-ce que vous voyez dans le retable en question? Vous voyez toujours, hein, c'est un détail de ça, la fameuse Vierge de Miséricorde avec les Chartreux. Vous voyez que c'est un espèce de thème qu'on trouvait volontairement et qui un peu martelait toujours la même idée. On est dans un lieu dans Saint-Vincent de Chartreux, où la Vierge est l'objet des dévotions carthusiennes. Ok ?
Mais la robe rouge, c'est pas si fréquent que ça pour la Vierge ?
C'est vrai qu'au Moyen-Âge, elle est plutôt représentée en bleu, vous avez raison. Oui. Hein. Après, on trouvera toutes sortes de possibilités.
Et le blanc viendra plus tard.
Oui, absolument. Ce sera même assez tardif. Oui, ouais. Ouais. Absolument. Là, c'est doré en plus. Donc, bien. Alors, tout ça va nous permettre de regarder d'un peu plus près des œuvres de Zurbaran. Puisque Zurbaran, il y a.
Yes.
Alors, je vais préparer un petit diaporama avec une 20-25aine de photos où j'ai mis des œuvres de Zurbaran que vous allez me commenter aux petits oignons. Et bien entendu, j'ai mis au milieu de ça des œuvres qui ne sont pas Zurbaran. Et vous aurez la possibilité, évidemment, de trier le bon grain de livrette. Et je vous fais confiance pour trouver ça parfaitement. Ça vous va, ça ? Hein ?
C'est marqué.
Alors, on commence. Bon, sujet, pas très compliqué, on commence soft.
Le Christ en croix.
Là aussi, si vous aviez à caractériser l'œuvre.
Alors,